Les chemins
de la recherche
de Travis.
De traverse de la recherche.
Radio Campus
Grenoble
90.8.
Voilà, bonjour, je suis avec Michael Langlois, c'est vraiment un plaisir de te retrouver encore aujourd'hui.
Merci.
Donc on s'était déjà vu l'année dernière et donc on avait déjà discuté des expériences du silence, notamment sur les terrains monastiques, dans le jeûne, le rapport à le silence avec la solitude, avec la piété. Et maintenant j'avais envie qu'on puisse creuser encore une fois le silence, et j'ai voulu t'entraîner un petit peu dans la littérature, dans la Bible, que tu dois effectivement bien connaître parce que il me semble que tu es théologien, mais je te laisserai encore te présenter, et notamment le livre qu'on appelle des Proverbes dans la Bible, parce que le silence a une place toute particulière. Alors je te laisse te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas.
Oui, voilà, je m'appelle Michael Langlois. Je suis historien et philologue de formation. Je fais ma thèse donc à la Sorbonne et je m'intéresse notamment à la littérature hébraïque arabienne ancienne. Et évidemment, dans cette littérature, il y a la Bible. Et donc, je suis en poste à l'université de Strasbourg, un poste d'Ancien Testament, justement, donc la première partie de la Bible, dans laquelle il y a justement tous ces textes en hébreu, en araméen, mais aussi en grec, et dont le livre des Proverbes. Alors, c'est vrai que cet intérêt que j'ai à la fois pour une perspective historique de l'histoire du Proche-Orient ancien, et notamment l'histoire des religions. Je ne fais pas que de l'histoire des religions. Là, je suis en train d'éditer, par exemple, des ostracas, donc des débris de poterie inscrits qui datent d'il y a 2600 ans. Et on a de l'administration du royaume de Juda. Là, on a de la correspondance militaire. Donc voilà. Donc je fais un travail d'historien au sens large du terme, en exploitant toutes les sources de documentation qu'on a pour l'Antiquité, que ce soit l'historiographie, l'archéologie, l'épigraphie, donc notamment. Mais effectivement, j'ai un intérêt tout particulier pour l'histoire des religions, la naissance des religions et des religions qu'on connaît bien nous, nos religions, c'est-à-dire le judaïsme, le christianisme et l'islam. Et c'est dans ce cadre, effectivement, que je m'intéresse à la Bible. Alors, mon approche des textes bibliques, effectivement, elle est peut-être pas la même que celle, disons, à laquelle les gens sont habitués quand ils ont une démarche de foi, hein, des croyants qui vont lire la Torah, la Bible, le Coran pour méditer et épuiser une sagesse pour leur vie. Je le fais, disons, en tant qu'historien, ce qui est pas du tout incompatible, hein, bien au contraire, c'est même une bonne chose pour les croyants d'avoir une foi raisonnée et une foi qui puisse recevoir justement tout l'apport des sciences de l'Antiquité. Et c'est vrai que c'est dans ce cadre effectivement qu'on s'était rencontré avec cette thématique du silence qui est effectivement très intéressante dans les textes bibliques et dans l'histoire des religions.
Alors, effectivement, il y a souvent des proverbes qu'on connaît comme ça sans trop savoir qui viennent de la Bible, et notamment sur le silence. Est-ce que ça te parle?
Alors c'est vrai qu'effectivement, il y a tout un tas de dictons, hein, qu'on a dans la vie de tous les jours qui viennent de la Bible, de différents livres de la Bible d'ailleurs, hein, quand on dit « rendez à César ce qui est à César », quand on dit « œil pour œil, dent pour dent », quand on dit « je sais pas moi, il y a un temps pour tout », etc. etc. Voilà, toutes ces petites expressions de la langue française, en fait, elles viennent de la Bible. Et donc, de différents livres de la Bible, « œil pour œil, dent pour dent », ça c'est dans ce qu'on appelle le Pentateuque, les cinq premiers livres de la Bible, la Torah de Moïse. « Rendez à César ce qui est à César », c'est dans l'Évangile, c'est Jésus qui dit ça. Quand on dit « il y a un temps pour tout », c'est dans le livre de l'Ecclésiaste ou Coëlette. Donc effectivement, il y a tout un tas de proverbes qui sont dans la Bible, et ils sont éparpillés dans différents livres de la Bible. Mais il y a un livre de la Bible qui est exclusivement consacré à ces petits dictons, c'est le livre qu'on appelle le livre des proverbes. Du coup, effectivement, c'est un nom qui n'est pas très original, mais au moins il a le mérite d'être explicite. On sait que quand on ouvre le livre des proverbes, on va avoir une collection comme ça de tout un tas de sentences, de maximes, d'apophthegmes. Enfin voilà, on peut utiliser différents termes différents, mais voilà, des petites phrases qui sonnent bien. Alors qui sonne bien encore plus en hébreu, hein, c'est un livre qui a été rédigé en hébreu. Nous, on le lit souvent en français aujourd'hui ou dans notre langue moderne. Donc évidemment, on sait que souvent les dictons, il y a souvent une sonorité, une musicalité qui permet la mémorisation. Donc ça, souvent, on va le perdre en français, mais ça n'entache en rien, ça n'enlève en rien de l'intérêt, disons, de ces livres. Alors, c'est un livre assez important, le livre des Proverbes. Il est composé de différentes sections, il est attribué à différents auteurs. Donc, on comprend très vite à la lecture du livre des Proverbes qu'il a une longue histoire et qu'en fait, c'est plutôt une sorte de compilation de tout un tas de proverbes, de petites phrases qui étaient certainement connues à l'oral. On sait que les civilisations de l'Antiquité étaient beaucoup plus habituées à l'oral que nous aujourd'hui. Enfin, disons aujourd'hui encore, il y a des cultures et des civilisations de l'oral, mais c'est vrai que nous en Occident, on est beaucoup moins habitués à ça. L'alphabétisation est systématique, tout le monde apprend à lire et à écrire. On a accès à donc des supports d'écriture, du papier, etc. Et puis évidemment maintenant avec la dématérialisation, tout le monde a son téléphone, tout le monde peut comme ça écrire des choses à droite à gauche. Donc c'est vrai qu'on est vraiment habitué à communiquer à l'écrit et à enregistrer tout un tas d'informations à l'écrit. Donc on n'apprend plus rien par cœur, alors qu'on n'est même pas son propre numéro de téléphone, on connaît plus rien par cœur, même les anniversaires, les dates de naissance, on a oublié tout ça parce qu'on a un téléphone pour nous le rappeler. Mais il faut bien s'imaginer que l'écrit était un support rare dans l'Antiquité, et la plupart des gens mémorisaient tout un tas de textes, que ce soit justement des proverbes comme celui-là, ou des chansons, des poèmes, des récits mythologiques, des histoires, etc., etc. Donc les gens connaissaient plein de choses par cœur. Donc cette mise par écrit, elle a dû se faire secondairement, et par ailleurs, elle a dû se faire sur une longue période de temps. On le voit parce que la langue est pas toujours la même, les allusions sont pas toujours les mêmes. Il y a parfois des parallèles qu'on peut faire dans le livre des Proverbes avec de la littérature qu'on a dans l'Égypte antique, vous savez, l'Égypte pharaonique, hein. Donc on a un certain nombre de proverbes où on a l'impression qu'on les a déjà d'une certaine manière en Égypte ou dans d'autres parties, au contraire, du côté de la Mésopotamie, ce qui correspond aujourd'hui à l'Irak. Donc voilà, on est dans toute cette sphère, dans toute cette aire géographique, et on comprend que forcément la sagesse populaire, elle est bien sûr, elle se transmet de génération en génération, et donc on apprend, voilà, des petits dictons. La grand-mère enseigne. Moi, je me souviens de ma grand-mère qui me disait en avril, ne te découvre pas d'un fil. Je dis ça parce qu'on est en avril, et donc voilà, ce sont des dictons qu'on apprend à l'oral et qui sont transmis de génération en génération et de siècle en siècle. Ça veut dire lorsqu'ils sont mis par écrit, ça veut dire que c'est des proverbes qui existent peut-être déjà depuis des siècles. Et donc, quand ils sont mis par écrit, quand il y a cette compilation, on va les rapprocher. Et ça, on peut s'en rendre compte. Il y a des chapitres où on dit, tiens, il y a une thématique qui est développée, puis après, un autre chapitre, on développe une autre thématique, et puis après, on y revient. Et puis, il y a des attributions postérieures. On va dire, ça, c'est des proverbes du roi Salomon. Alors, on lui dit, ah oui, pourquoi? Parce qu'on nous explique dans la Bible que le roi Salomon, c'est le fils du roi David, eh bien, était réputé pour sa grande sagesse. On nous explique que la reine du royaume de Saba, c'est le Yémen aujourd'hui, qui malheureusement est en proie à la guerre. Voilà, il y avait un royaume à l'époque, et que donc la reine elle entend parler de la réputation du roi Salomon, elle est admirative, elle est très impressionnée. Et donc il y a quelques épisodes comme ça dans la Bible, on nous dit, voilà, le roi Salomon avait une sagesse légendaire, connue dans le monde entier, les gens venaient de loin pour l'entendre, et puis on nous raconte quelques histoires où lui-même il a été amené par sa sagesse à résoudre des questions épineuses, y compris des litiges qui lui étaient soumis. Et donc, il a cette réputation, et donc on va lui attribuer comme ça tout un tas de proverbes, tout comme on va attribuer à David, son père, tout un tas de psaumes, parce que le roi David, on nous le présente comme étant un musicien, il joue de l'harpe, etc. Enfin, ou peut-être pas de l'harpe, la cithare, ou enfin un autre instrument, la lyre. Mais en tout cas, voilà, il est musicien, et donc on va lui attribuer également. Donc il y a toutes ces attributions. Il y a une autre section du livre des proverbes qui est attribuée à un autre roi, à un autre personnage. À un moment donné, on attribue à un roi qui est par ailleurs totalement inconnu. Donc c'est marrant parce que quelqu'un, on dit, voilà, ça, c'est des proverbes qui ont été écrits par un tel, sauf que ce personnage n'est absolument pas mentionné ailleurs dans la Bible. Donc ça nous montre en fait la complexité de la transmission de ces traditions. Ça veut dire qu'il y a eu vraiment des couches qui se sont superposées siècle après siècle. Ce qui est pas surprenant finalement, comme je disais, c'est-à-dire que si là on a un recueil de proverbes populaires, il est normal que siècle après siècle on l'enrichisse. C'est comme si vous avez un répertoire de la littérature française, je sais pas, la collection de la Pléiade, et bien forcément on va régulièrement publier des nouveaux volumes dans cette belle collection en disant tenez, on a quelque chose de nouveau. Donc c'est pas très surprenant. Et par ailleurs, ce système, disons, on va dire de rédaction des textes bibliques est confirmé par les plus anciens manuscrits. Là, je ne parle pas spécialement du livre des Proverbes, mais de manière générale, pour les livres de la Bible, quand on compare les plus anciens manuscrits de ces textes bibliques, en hébreu notamment, on a les fameux rouleaux de la Mer Morte, eh bien, on peut mettre côte à côte plusieurs exemplaires d'un même livre de la Bible, et on voit encore justement comment ces livres sont construits, tout le travail éditorial, un vrai chantier éditorial, où on vient comme ça étoffer de plus en plus les textes bibliques. Donc le livre des Proverbes n'échappe pas à la règle, et c'est comme ça qu'il a été construit. Donc aujourd'hui, on le reçoit comme étant finalement une sorte de synthèse, de grande compilation de centaines de proverbes. Il y a des dizaines de chapitres dans le livre des proverbes, qui donc ont des origines diverses, viennent de milieux différents, d'époques différentes. Donc on a accès à une richesse, à une sagesse, qui est une sagesse qu'on va qualifier de populaire parce que on va retrouver effectivement des proverbes qui tombe sous le sens, sans forcément qu'on y attache une valeur religieuse. D'ailleurs, on va dire, voilà, écoute mon fils, écoute les enseignements de ton père, de ta mère, etc., etc. Donc, on va dire, c'est des choses qui sont vraies, qui sont assez universelles, et on va dire, dans beaucoup de civilisations différentes, on va retrouver les mêmes choses. D'ailleurs, je disais tout à l'heure, on les retrouve de la même manière en Égypte, déjà dans l'Antiquité ou autre, et encore aujourd'hui, effectivement, ça paraît assez normal. Et donc, on va regarder un petit peu quelques proverbes tout à l'heure ensemble, si tu veux, mais effectivement, on se rend bien compte que dans le livre des Proverbes, on va accéder à cette sagesse populaire, mais qui va être présentée comme étant divine. C'est-à-dire, il n'y a pas d'incompatibilité entre le fait que cette sagesse, elle tombe sous le sens. On se dit, bah oui, si on a un peu de jugeote, si on réfléchit un petit peu, qu'on utilise ses neurones, on va être d'accord. Précisément parce qu'on nous explique que nous avons été créés, disons de certaine manière, notre cerveau. Si on a un cerveau, c'est parce que Dieu nous a créés avec un cerveau, et il faut donc qu'on s'en serve. Et si Dieu nous donne justement des parents ou des instructeurs, disons, pour nous éduquer, pour nous instruire, nous élever, c'est parce que c'est dans l'ordre naturel des choses, c'est Dieu qui l'a voulu ainsi, et c'est pour ça qu'il faut écouter son père et sa mère. Donc il n'y a pas d'incompatibilité non plus entre le fait que ce soit une sagesse populaire et une sagesse qui soit d'origine divine. Et bien sûr, on va voir dedans des éléments de morale, c'est-à-dire de notions de bien et de mal, de sagesse, et là on va un peu plus explicitement nous montrer l'origine divine de cette sagesse.
Oui, effectivement, c'est très intéressant. Et notamment, c'est vrai que même si on ne le formule pas, on ne va pas l'expliciter à soi-même de manière très claire, il y a bien quelque chose dans le silence qui, effectivement, va générer quelque chose d'assez prégnant et prégnant à la façon, effectivement, dont on peut le voir dans les proverbes. Je vais donner un exemple. Par exemple, effectivement, quand tu parlais de l'éducation, on voit par exemple dans le proverbe 10-19, il est marqué « À trop parler, on n'évite pas le péché. Qui tient sa langue est bien avisé. » Et ça, c'est vrai que d'un point de vue sociologique et notamment d'un point de vue un petit peu de ce qui se fait en termes de société, c'est vrai que cette question du silence, cette question du contrôle du silence, cette question de savoir garder le silence, c'est souvent un enjeu. Déjà, pour commencer à l'école. Hein? Souvent, là, on voit des réflexions souvent qui vont un petit peu dans tous les sens, où effectivement, nos parents, on n'avait pas le droit au chapitre. Hein? Quand on était à l'école, le maître ou la maîtresse disait ça, il n'y avait surtout pas intérêt de dire quoi que ce soit. Et si on trouvait à redire, le parent par-dessus revenait et remettait une couche. Donc il y a quelque chose de l'ordre où là le silence dit quelque chose sur l'ordre social. Hein, et j'ai presque envie de dire, il dit quelque chose sur l'ordre social intériorisé. Et d'une autre manière, effectivement, cette façon peut-être de pas pouvoir se maintenir dans le silence, il y a quelque chose de l'ordre de comment dire, où on y voit une certaine forme de problème. Par exemple, dans un débriefing, on peut très bien imaginer, hein, entre professeur, éducateur, tiens, celui-là, il sait vraiment pas tenir en place. Il a toujours un mot à dire. Il a toujours quelque chose à prédire, hein? Et il y a une phrase dans les proverbes, il me semble, c'est que le sot, même quand il se tait, il paraît sage. Qu'est-ce que tu en
Oui.
penses?
Oui, effectivement, on le trouve dans le livre des Proverbes, c'est le Proverbe chapitre 17, verset 28. Alors effectivement, il est intéressant ce passage. Et c'est vrai qu'il y a, alors, dans le livre des Proverbes, ce que tu dis est très vrai, on le trouve dans le livre des Proverbes, c'est-à-dire que le silence est associé à la sagesse et l'absence de silence, quelqu'un qui parle un peu trop, est associé à la stupidité. Et donc, effectivement, le Proverbe 17, versets 27 et 28, je lis dans la traduction œcuménique de la Bible, Proverbe 17, chapitre 17, verset 27, nous dit: Qui met un frein à ses paroles est plein de savoir. Qui garde son calme est un homme raisonnable. Donc là, c'est le côté positif. On dit, voilà, mettre un frein à ses paroles. La langue est souvent effectivement présentée comme quelque chose d'un peu fougueux qu'il faut contrôler, donc mettre un frein, comme on met un mors dans la bouche d'un cheval. Il faut faire pareil avec soi, d'une certaine manière. Il faut faire attention à pas trop parler, parce que c'est ça le signe de l'intelligence et de la raison, de la sagesse, de garder son calme et de pas se précipiter pour parler. Et à contrario, la phrase suivante nous dit, Proverbe 17, verset 28, même un fou, s'il se tait, peut être pris pour un sage, pour quelqu'un d'intelligent, s'il garde les lèvres closes. Donc là, on va trouver la même chose d'une certaine manière, donc qui va être dite deux fois. Hein, le verset 27 nous dit deux fois la même chose pour ce qui est d'un homme sage. Le verset 28 nous dit deux fois la même chose pour ce qui est de quelqu'un qui serait un fou, disons, ou un sot. Et effectivement, on comprend que, effectivement, si on se tait, si on garde les lèvres closes, eh bien, on peut donner l'impression d'être sage ou d'être intelligent. Donc ça, c'est effectivement quelque chose qui est assez récurrent, dans le livre des Proverbes. Il y a cette idée. Donc le silence n'est pas, nécessairement associé, comment dire, à une, c'est pas, comment dire, n'est pas associé à une forme de méditation. Il ne s'agit pas, si je fais écho un peu aux discussions qu'on a eues précédemment, il ne s'agit pas là de faire silence parce qu'on va dans le silence trouver un lieu de recueillement, de méditation qui sera propice, disons, à l'épanouissement. On est plus là dans le rapport aux autres, donc dans un contexte de société, effectivement, comme tu dis, un contexte social, dans le dialogue avec les autres, en disant, en fait, c'est surtout que le fait de parler est dangereux, de trop parler d'une certaine manière est effectivement dangereux. Alors, quand on lit ça dans le Proverbe 17, ça a déjà été dit précédemment, tu le disais tout à l'heure, Proverbe chapitre 10, verset 19, où abondent les paroles, le péché ne manque pas. Donc c'est sûr que plus on va parler, plus on va risquer de dire ce qui ne va pas. Mais on nous dit qui réfrène son langage est un homme avisé. Donc il y a encore cette idée de réfréner. Et puis, on le retrouve assez régulièrement. Au chapitre suivant, on l'a de nouveau. Au chapitre 11, au verset 12, on nous dit « Qui méprise son prochain manque de sens. L'homme raisonnable garde le silence. » Donc l'idée, c'est attention, si on parle trop, on risque d'avoir des paroles méprisantes. Donc, si on est raisonnable, vaut mieux garder le silence. Et puis le verset suivant, donc on est toujours au chapitre 11, verset 13, qui se répand en commérage, dévoile les secrets. L'homme loyal n'en souffle mot. Donc là, c'est intéressant parce qu'il s'agit là encore de parler, alors non pas forcément pour dire des choses un peu stupides, mais cette fois-ci pour dévoiler des secrets. Donc on est dans la confidence. Tu me dis, tiens, je vais te dire un secret, ce que je te dis, tu le gardes pour toi. Si tu as confiance en moi, tu le dis et je vais le garder pour moi. Mais on se dit, attention, il y a des gens un peu trop bavards qui sont incapables de garder des secrets, qui vont trop parler et qui vont dire des choses qu'ils ne devraient pas dire. Et à ce moment-là, effectivement, donc ce manque de loyauté va aboutir va causer des dégâts, évidemment. Donc là, c'est très intéressant aussi de voir dans des rapports interpersonnels, y compris des rapports d'amitié. Là, on est dans l'idée de confidence, hein, donc le silence, c'est aussi garder le secret, c'est aussi ne pas trahir la confiance, c'est être loyal vis-à-vis d'un ami qui va nous partager peut-être une situation difficile ou voilà des éléments sensibles. Et donc le silence est valorisé. Donc là aussi, dans un contexte comme celui-là, de nouveau, on va dire voilà, finalement, le silence est associé à la raison, à la loyauté, à la sagesse.
Alors, j'ai presque envie de dire, il y a aussi toute une dimension stratégique aussi dans ce silence-là, hein, c'est-à-dire on peut souvent, je vois dans les coachings, etc., dans les méthodologies de présentation de soi, par exemple lors d'un entretien d'embauche, et ce que je vois, c'est que on apprend aux personnes notamment la synchronisation. C'est-à-dire, c'est quoi? C'est-à-dire d'observer la personne qu'on a en face pour presque même mimer, hein, se synchroniser avec sa gestuelle, sa façon de parler.
Ah
D'accord?
oui.
Ouais, tout à fait. Et pour la simple raison, en fait, c'est pour créer un pont entre soi et la personne et pour que la personne, en fait, se voit en miroir, se dise, waouh, cette personne, vraiment, je la veux dans mon équipe. C'est vraiment quelqu'un qui a l'air, de tout point de vue, quelqu'un de bien. D'ailleurs, elle me ressemble beaucoup. Alors, c'est complètement inconscient, hein. Mais du coup, dans ce silence-là, il y a vraiment cette stratégie, c'est-à-dire de créer un espace là où on attire les pensées de l'autre vers lui-même. Hein. C'est-à-dire, c'est quelque chose de pas facile, hein, parce que peut-être que dans une configuration sociale comme ça où on peut être stressé, on pourrait avoir envie peut-être de prendre rapidement la parole, hein, pour se débarrasser du poids émotionnel, hein, ou pour pouvoir engager l'autre dans une discussion. Et là, c'est complètement le contraire, c'est d'être dans l'observation, d'être peut-être même dans la relance, hein, par des oui, d'accord, d'accord. Et pour ça, vraiment pour créer comme ça une espèce d'alignement émotionnel. Et là, il y a vraiment quelque chose où effectivement, on peut voir que la personne en face, l'interlocuteur, c'est pas tant la personne avec le recul. Elle va pas observer son interlocuteur avec le recul, mais effectivement, ça va être dans la configuration où le silence va donner comme ça une sorte d'effet miroir où effectivement. Il y a une espèce de, comment dire, d'alignement émotionnel qui va valoriser la personne en face, on va trouver effectivement des points d'ancrage avec la personne, des points de convergence avec la personne, et de manière un petit peu empressée, va nous amener sur un terrain où on va reconnaître à la personne de la valeur. Donc c'est quand même
Oui.
assez particulier, hein, cette espèce de silence comme une retenue, mais comme une retenue qui va déclencher un processus de valorisation aux yeux de l'autre.
Mais je trouve ça très intéressant, effectivement, cette notion de valorisation, de valeur et de valorisation de l'autre, effectivement, le silence étant associé, si j'ai bien compris ce que tu dis, à une valorisation de l'autre, je suis à l'écoute. Alors que, à contrario, si je parle beaucoup, c'est moi-même que je cherche à valoriser au détriment de l'autre. Et là encore, ça correspond bien, ça me fait penser à un autre verset du livre des Proverbes, toujours en rapport avec le silence. On nous dit, donc c'est au chapitre 18 du livre des Proverbes, au verset 2, nous lisons, le sot ne se complaît pas dans la raison, mais aime bien à faire étalage de son opinion. Voilà. Et donc, effectivement, l'idée, c'est celui qui aime faire étalage de son opinion. Donc, voilà, il parle beaucoup, au lieu de se taire d'une certaine manière et d'écouter, ce qui pourrait être justement à la fois une preuve d'humilité de sa part, je suis à l'écoute de l'autre, de valorisation de l'autre. On est dans le phénomène inverse, c'est-à-dire il veut faire étalage de son opinion, il pense que lui, il a des choses intéressantes à dire. Et donc, au lieu de faire silence, eh bien, effectivement, il parle beaucoup. Donc ça rejoint un petit peu ce que tu dis, et évidemment cette personne-là, on va qualifier qu'elle est sotte. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on retrouve à plusieurs reprises comme ça dans les proverbes. Un autre proverbe, un peu dans la même veine, hein, c'est n'est pas rare dans le livre des proverbes que on ait des parallèles, on ait parfois des proverbes qui disent à peu près la même chose, y compris dans des sections différentes. Ça, c'est lié, comme je disais tout à l'heure, à la façon dont le livre des proverbes a été constitué sur plusieurs siècles. Et on est allé chercher parfois des proverbes qui sont à peu près les mêmes, des versions différentes, mais on va retrouver deux fois la même chose. Donc ces doublons nous montrent bien la façon dont le livre des proverbes a été constitué. On a des cas comme ça dans la Bible, pas que dans le livre des proverbes, où on voit justement les doublons dans le livre des psaumes. Par exemple, je parlais tout à l'heure des psaumes qui sont donc des chansons. Eh bien, le psaume 14 et le psaume 53, si ma mémoire est bonne, c'est en fait deux fois la même chanson. Donc c'est comme si vous aviez un recueil de chansons et que en fait vous avez deux fois la même chanson qui apparaît dans une compilation. Vous avez une playlist de vos chansons préférées, il y a deux fois la même. Voilà, ça peut arriver. Bon. Et alors donc dans le livre des Proverbes, vers la fin du livre des Proverbes, chapitre 29, hein, il y a 31 chapitres, eh bien au chapitre 29, au verset 20, on dit: Aperçois-tu un homme prompt à parler? Il y a plus à espérer d'un sot que de lui. Donc c'est vraiment, voilà, là encore quelqu'un qui est prompt à parler. Eh bien, finalement, il est pire qu'un sot, pire qu'un quelqu'un qui est stupide ou voilà, parce que justement, il est prompt à parler. Le fait d'être prompt à parler est une marque, un marqueur du fait que la personne est donc pire qu'un imbécile et qui va commettre des erreurs et qu'il ferait mieux d'être à l'écoute. Donc ça, je trouve ça très intéressant d'avoir cette corrélation d'une certaine manière entre cette posture de la personne qui aime parler et qui du coup va se dévaloriser, enfin qui cherche en fait à se valoriser en disant voilà, en se mettant en avant, je vais beaucoup parler et vous allez voir à quel point j'ai des choses à dire, mais qui en fait fait tout le contraire, elle se dévalorise. Alors que si cette personne-là se taisait, eh bien, et était davantage à l'écoute de l'autre, elle serait dans une forme de valorisation de l'autre. Ce serait plus intelligent de sa part.
Après, c'est vrai que ce que tu dis est très intéressant, mais évoque aussi, c'est vrai que sur quelque chose qui est tu, il y a peut-être aussi une forme de mystère, hein, qui va se créer. C'est-à-dire, vraiment, c'est peut-être effectivement, par exemple, dans le contexte de la séduction, peut-être que créer le contact, c'est peut-être déjà créer l'interrogation. Et peut-être que créer l'interrogation, ça passe aussi déjà par essayer d'engendrer toute une forme de questionnement. Et effectivement, le silence, c'est aussi effectivement un espace, un contenu, hein, un espace qui n'est pas vide, mais un contenant, effectivement, où on peut effectivement converger, ou peut converger toute une forme de questionnement. Par exemple, pourquoi m'a-t-il pas répondu? Enfin, est-ce que je l'ai déçu? Est-ce que j'ai été trop lourd la dernière fois? Bah, c'était ma blague lors du repas? Ou alors, est-ce que c'est sa manière à lui de couper la relation? Voilà, il y a vraiment quelque chose qui va converger comme ça vers ce contenant du silence. Pourquoi? Parce que ça va donner lieu effectivement, en tout cas nous ouvrir à toute une forme de signification, de sens, où les mots n'ont pas prise. Et donc, il va falloir effectivement que ce sens-là passe effectivement par l'imaginaire comme ça mis en branle. Qu'est-ce que tu en penses?
Oui, c'est très très intéressant et effectivement le silence comme lieu de mystère et de questionnement, c'est vraiment vraiment très intéressant. Ça me fait penser à d'autres textes, alors qui sont pas dans le livre des Proverbes, mais quand même dans la littérature sapientielle, ce qu'on appelle la littérature sapientielle. Il n'y a pas que le livre des Proverbes et quelques autres livres qui sont aussi des livres de sagesse, on va dire, et qui sont d'ailleurs voilà rassemblés souvent à côté du livre des Proverbes dans la même section dans la Bible. Donc c'est le cas par exemple du livre de l'Ecclésiaste ou Coëlette, c'est le cas du livre de Job, etc. Et par exemple dans le livre de Job, il y a aussi effectivement beaucoup d'abord de dialogues, hein, c'est une mise en scène, c'est comme une pièce de théâtre, il y a des prises de parole successives, Job a trois amis avec lui, donc chacun prend la parole, il répond, le deuxième prend la parole, il répond, le troisième prend la parole, il répond, il y a des tours de parole comme ça, on fait trois fois comme ça, il y a un quatrième ami qui intervient, etc. Et donc il y a un phénomène un peu cyclique dans le livre de Job. C'est à la fois cyclique et en même temps il y a une progression. Donc c'est un peu hélicoïdal puisque tout part d'un questionnement qui est légitime, hein, qui est l'origine de la souffrance. Comment dire, il arrive une tuile dans la vie, ça peut nous arriver à tous. On se dit, pourquoi ça m'arrive à moi? J'ai rien fait de mal, j'ai des ennuis pas possibles. Et le pauvre Job, il perd tous les niveaux. Donc on peut vivre parfois ça en disant sur plan familial, sur plan professionnel, tout fout le camp, etc. Et donc s'interroger, dire, mais pourquoi ça m'arrive à moi? Est-ce que j'ai fait quelque chose pour mériter ça ou pas? Et donc c'est un peu l'objet du livre de Job. Donc c'est très intéressant à lire. Mais ce qu'on voit, c'est que là où effectivement le dialogue au départ paraît, disons, voilà, assez ouvert, sincère, très vite on se referme dans un dialogue qui n'en est plus un. On a des prises de parole très dures, très accusatrices. Mais Dieu et mais moi et Dieu se tait en plus. Donc il y a ce silence justement de Dieu dans tout ça, et ça énerve de plus en plus. Au lieu justement que le silence, comme tu dis, suscite l'interrogation, dire attends, je vais quand même m'arrêter, réfléchir, quel est le sens de ce silence? Est-ce que c'est le lieu du mystère et de la révélation ou pas? Et donc, il va falloir attendre pratiquement la fin du livre de Job, jusqu'à arriver pratiquement au chapitre 38 du livre de Job, où là, Dieu se manifeste enfin, parce que Job devient très véhément, mais moi, je veux un procès, je vais expliquer à Dieu, il a tort, j'ai raison, etc. Donc, voilà, il est prêt à en découdre avec Dieu, et même, il pense avoir raison face à Dieu. Et donc, au chapitre 38 et 39, il va y avoir cette théophanie, Dieu qui va se manifester, c'est-à-dire qui va apparaître, qui va se révéler, etc., etc., et qui va dire à Job, dis donc, toi, humain, tu veux me dire à moi, Dieu, mais t'étais où au moment de la création du monde, etc., etc. Et donc, il y a cette révélation assez extraordinaire, magnifique de Dieu, et là, qui suscite le silence de Job, donc enfin il se tait, et justement au chapitre 40, après, quand il reprend la parole, il dit qu'il a trop parlé, et il dit qu'il met sa main sur sa bouche, il dit voilà, j'ai trop parlé, je mets ma main, je vais me taire, je vais écouter, et donc c'est très intéressant parce qu'effectivement, cette démarche, on voit Job qui change de posture, donc une posture où il parlait beaucoup, 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 et Dieu qui se taisait. Et évidemment, l'intérêt était dans le silence de Dieu. Et justement, Dieu qui nous parle au travers du silence. Et c'est au chapitre 36, d'ailleurs, du livre de Job. On a cette prise de parole, on nous explique ça, verset 15. Et donc, effectivement, que le silence est aussi une façon pour Dieu de nous parler, et que donc peut-être c'est à nous de nous taire pour être vraiment à l'écoute. Et donc, le silence est la révélation divine. Donc ça, c'est sûr que je trouve ça très intéressant de voir que dans la Bible aussi, dans la littérature sapientielle, on a cette idée que le silence est aussi prompt à l'écoute et donc à la révélation. Avec un questionnement, effectivement, il peut y avoir une ambiguïté, il peut y avoir des choses, mais en tout cas, ça peut être effectivement propice. Donc là encore, une bonne raison pour ne pas se précipiter pour parler.
Oui, c'est vraiment, effectivement, j'aime beaucoup le passage effectivement dont tu parles de Job, où effectivement il est effectivement dans une forme de rumination, de raisonnement, et effectivement au lieu, peut-être effectivement ce silence pour lui n'est pas au tout début, en tout cas dans la première instance, n'est pas le lieu effectivement de la résonance, hein, de la résonance de ce silence, en tout cas de se laisser dans cette espèce d'inconfort, hein, non pas physique, parce qu'effectivement on sait que le personnage est très physiquement très abîmé, il est très malade, etc., il est très souffrant, mais effectivement de pouvoir effectivement laisser effectivement cet inconfort pouvoir le mettre sur la piste, effectivement sur une forme de piste. Et c'est peut-être tout là l'enjeu, enfin socialement, ce qui peut-être nous fait qu'on va couper la parole, ce qui fait peut-être qu'on va avoir effectivement un flot de paroles exubérant, c'est peut-être cet inconfort, hein, ou cette espèce d'entre-deux là, où on peut être capable peut-être de garder dans cet inconfort le temps du silence, le temps de la suspension pour le rebond, pour que la réponse soit chargée de présence, soit chargée peut-être de nos questionnements aussi. C'est-à-dire authenticité, dans l'authenticité, quoi. Eh ben peut-être effectivement qu'il va y avoir comme ça une forme de communication, enfin, de dialogue ou de mise en parole, mais sans vraiment faire face à l'autre. Hein. Peut-être en se murant justement derrière la rapidité avec laquelle on va réinjecter un flot de paroles, comme une espèce de mur de protection. Qu'est-ce que tu en penses?
Oui, c'est effectivement intéressant. Bah, de toute façon, il y a cette idée, hein, effectivement, du silence. Comment dire, voilà, est-ce qu'il faut parler ou pas parler? À quel moment est-ce qu'il vaut mieux se taire? Je vois bien effectivement l'idée de cette protection de ce mur. Et puis, en attendant, peut-être le moment propice. Et si on revient dans le livre des Proverbes, il y a justement un verset qui est intéressant à ce sujet. C'est au chapitre 21 du livre des Proverbes. On nous dit, le faux témoin périra, mais celui qui sait écouter saura toujours parler. Qui sait écouter saura toujours parler. Et donc, il y a cette articulation intéressante entre le silence et le fait de parler. Le fait de, on se dit, bon, mais si je fais silence, alors je ne parle pas. Il y a une sorte d'opposition, évidemment, de fait, faire silence et ne pas parler. Sauf que précisément, il y a aussi la valeur de la parole parce qu'il y aura eu le silence avant. Celui qui sait écouter, qui sait se taire, qui sait écouter, il saura aussi parler. Alors que celui qui ne fait que parler, de toute façon, il va vite disparaître. Et donc, effectivement, on s'interroge, est-ce qu'il faut parler, est-ce qu'il ne faut pas parler? C'est-à-dire, et il y a d'ailleurs donc cette comment dire ce dilemme un petit peu est merveilleusement illustré dans un autre passage du livre des Proverbes. C'est au chapitre 26. Il y en a deux versets côte à côte. Alors souvent deux versets en opposition. On a déjà vu le cas tout à l'heure, mais c'est assez fréquent. Proverbe 26, chapitre 26, verset 4 nous dit: Ne réponds pas au sot selon sa folie, de peur que tu ne lui ressembles toi aussi. Donc grosso modo, on te dit voilà, si tu as quelqu'un en face de toi qui fait l'imbécile, qui dit n'importe quoi, ne réponds pas. Hein, sinon toi aussi, tu vas lui ressembler, tu vas être aussi stupide que lui. Donc, si tu as en face de toi quelqu'un qui dit n'importe quoi à tort, à travers, etc., etc., ne l'imite pas. Sinon, bah, toi aussi, tu vas avoir l'air d'un imbécile. Bon. Donc, on comprend très bien, on dit très bien, c'est le non, dans ces cas-là, on garde le silence. Mais le verset suivant, la phrase suivante nous dit, réponds au sot selon sa folie, de peur qu'il ne s'imagine être sage. Et là, on nous dit deux choses diamétralement opposées. Au verset 4, ne réponds pas au sot selon sa folie. Verset 5, répond au sot selon sa folie. On nous dit, c'est des injonctions contradictoires, on nous dit deux choses qui sont exactement, qui en apparence disent, voilà, il faut faire une chose et il faut faire son contraire. Et dans le deuxième cas, on nous dit, non, il faut répondre aussi. Il dit, il faut faire pareil, de peur qu'il ne s'imagine être sage. Si tu le laisses parler et que tu ne réponds pas, il va dire, bah oui, alors j'ai raison. Bon. Et donc, évidemment, c'est savamment articulé. L'auteur est là pour nous faire réfléchir, d'abord sur le fait qu'il ne suffit pas de piocher un verset au hasard dans la Bible pour dire que dit la Bible, eh ben je vais faire ça, et donc c'est ça que je vais faire, un point c'est tout, parce qu'en fait on dit bah voilà, il y a un verset qui vous dit une chose et un autre verset qui va vous dire son contraire, donc effectivement on se dit bon bah alors à ce moment-là voilà, il faut dans tous les cas quand on lit la Bible il faut toujours remettre en contexte et puis comprendre aussi que des vérités sont pas forcément des vérités, c'est-à-dire universelles à utiliser en permanence, mais que peut-être il y a le temps, il y a peut-être les circonstances, le moment où on dit, j'ai quelqu'un en face de moi qui parle beaucoup, je ne vais pas faire comme lui, je ne vais pas tomber dans le piège, je le laisse parler parce que je n'ai pas envie de me retrouver comme lui, comme un imbécile. Et d'autres moments, au contraire, on dit, ah non, 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 là, c'est pas le moment, il faut pas lâcher le morceau et il faut le faire. Et donc, cette articulation entre le silence et la parole, en disant, oui, on valorise le silence, et dans le livre des Proverbes, on valorise beaucoup le silence au détriment de la parole, et bien articulé là, en disant, non, non, il y a aussi le moment où il faut parler.
Alors, je trouve vraiment très très intéressant effectivement que tu nous mets en balance ces deux versets parce que justement quand tu es en train de parler, j'étais en train de me dire que peut-être à un moment donné dans le deuxième exemple, c'est peut-être dans la qualité du silence que peut être la pertinence justement de la prise de parole. Tu vois?
Ben oui, ben oui.
Et c'est peut-être ça, tu sais, comme on dit l'orateur souvent quand tu veux attirer l'attention, tu vois? Le mieux, c'est qu'il se taise.
C'est vrai.
Tu vois? Et un musicien, quand il veut amener son auditeur au plus complexe de l'émotion, eh ben, il va mettre un silence avant. Comme ça, il va faire résonner la note qui est juste avant le silence. Et elle va rencontrer la nouvelle sonorité qui va être élancée à beaucoup plus comment dire, de profondeur quelque part. Enfin, en tout cas, dans la perception, puisque le silence aura pris le temps, justement, d'amplifier notre capacité à accueillir les informations données.
Ah, c'est merveilleux.
Alors, je vois qu'on arrive au terme de l'émission, et on aura encore plein de choses à écouter, et c'était vraiment très, très intéressant. Je te remercie beaucoup d'avoir
Avec
accepté
plaisir.
cette invitation. Et vraiment, c'était vraiment un grand, grand, grand plaisir.
Ben écoute, vraiment, quand tu veux, hein, c'est toujours avec plaisir. J'aime beaucoup ces conversations.
Ok, ben je note. Voilà, je note dans mon agenda comme tu veux. Mais c'est avec plaisir, d'accord. À un prochain rendez-vous, alors on se fixera ça.
Merci.
Je remercie les auditeurs. Et donc voilà, nous avons essayé d'esquiver cette conversation. Et j'espère que les propos de Michael Langlois auraient pu nous lancer effectivement vers quelques interrogations, dont peut-être quelques inconforts. Bonne journée. Au revoir.
Les chemins
de la recherche,
les chemins de traverse
de la
recherche.
Radio Campus, Grenoble,
90.8.
8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888